merci de nous rejoindre en ce samedi matin si tôt pour donc un débat autour de romancer l'histoire entre recherche et imaginaire. Avec nos invités, donc à ma gauche, Céline Landrécy, pour une saga historico-vampirique qui se passe à différentes époques. Trois volumes sortis, un quatrième à sortir le mois prochain. À ses côtés, Olivier Gay, d'abord connu pour ses romans policiers, ses romans pour la jeunesse. Et puis qui a sorti chez Bragelonne un cycle de fantasy qui s'appelle La main de l'empereur, disponible en intégrale chez Bragelonne. Et puis ensuite, qui est sorti dernièrement, un préquel à cette saga. À ses côtés, Éric Marchal, auteur de romans historiques situés là aussi à diverses époques, le dernier étant Là où rêvent les étoiles, qui se déroule au XIXe siècle dans le monde des ingénieurs, dans lequel on va suivre deux familles, dont celle de Gustave Eiffel. À ses côtés, Daniel Martin-Gol, auteur de romans pour la jeunesse, de science-fiction, et dernièrement, auteur aussi de romans historiques, où se mêlent la science-fiction et le roman historique, avec une série qui s'intitule Les aventures à Guédelon, donc autour de ce château, et qui compte désormais quatre volumes, les deux derniers étant sortis récemment. Et à ses côtés, Isabelle Fournier, qui est professeure des écoles, cofondatrice de Mission Explo, et qui conçoit des supports pédagogiques et touristiques en direction des jeunes enfants. Elle nous en parlera de façon plus détaillée. Alors, je vais commencer avec vous, Olivier Gay. Donc, j'ai réussi à peu près à situer les romans historiques de nos invités dans leur période. Avec vous, j'ai eu un peu de mal pour savoir justement quand ça se déroulait votre saga, vos romans. Est-ce que vous êtes, avec cette saga, un auteur de romans historiques?
Alors, vous m'entendez, ouais. Pourquoi tout ça, c'est vrai, Non, ce ne sont pas des romans historiques. Par contre, c'est vrai que parce que je suis un auteur un peu paresseux, je me suis basé sur un certain nombre de choses qui existaient déjà et des choses qu'on trouve dans l'histoire, parce que l'histoire du monde, de manière générale, a tellement, j'allais dire, d'ingrédients que non, c'est pas forcément la peine d'en inventer pour créer des mondes crédibles et surtout pour créer des univers, des politiques, des manipulations crédibles, parce que finalement, tout a déjà été fait. Et donc, bah, dans Les épées de glace comme dans La main de l'empereur, c'est vrai que j'ai un univers qui est un peu un mélange de deux périodes qui me fascinent. La première qui est l'Empire romain au moment de son déclin, parce qu'on entend beaucoup parler de l'Empire romain au moment où il s'est en baisse, c'est là, formidable, juste l'empereur, etc. Et un peu moins de toute la période, justement, bah, c'était les gens à sa vie du Metz, ils commencent à se reproduire. Je suis fatigué. Ils ont commencé à se replier sur eux-mêmes et toutes les tractations et toutes les manipulations qui ont eu lieu. Et la deuxième chose, c'était une partie également sur le système féodal. C'est-à-dire que finalement, dans La main de l'empereur, comme dans Les épées de glace, on suit un empire dans lequel on a un système qui est basé à la fois effectivement sur le système d'empire romain et sur un système un peu féodal, comme on peut le trouver en permanence.
Et vous astreignez à ce système-là, cet empire romain, est-ce que vous l'avez étudié plus particulièrement avant d'écrire votre roman, et est-ce que vous vous y tenez ou finalement vous vous permettez toutes sortes de choses?
Déjà, on m'a toujours dit qu'on parlait bien de ce qu'on connaissait. Et comme encore une fois, je suis très paresseux, plutôt que de faire de grandes recherches, je me suis basé sur ce que je connaissais déjà. Et donc j'avais cette fascination pour l'empire romain, j'avais lu beaucoup de choses sur l'empire romain. Et pour prendre un exemple très concret, l'organisation d'une armée. Plutôt que de rechercher, de savoir imaginer un système dans lequel on aurait une armée avec des serpents, des colonels, est-ce que ça va être adapté ou pas, et finalement est-ce que les charges vont être payées ou payantes, est-ce qu'il faut payer pour être un client, ou est-ce qu'au contraire c'est un solde forcément beaucoup plus cohérent que ce que j'aurais pu imaginer, puisque ça existait. Et d'autre part, bah, encore aujourd'hui, mes confrères sont beaucoup plus historiques que moi, le diront certainement, mais l'organisation militaire de l'Empire romain fascine parce que ça a fonctionné quand même pendant une certaine année. Donc, forcément, quelque chose de pas trop mal à ce niveau-là.
Céline, Olivier nous dit qu'il est un auteur feignant. Alors en vous lisant, on se dit que vous n'avez pas été un auteur feignant parce que vous avez dû faire énormément de recherches sur les périodes qui vous intéressent. Donc le point de départ, est-ce que c'est plutôt l'imaginaire vampirique ou est-ce que c'est plutôt la rigueur historique? Je suis basée sur l'histoire, hein, beaucoup comme une identité, parce que la réalité n'est pas sa fiction. On n'a pas besoin d'aller forcément chercher quelque chose de plus grandiose. La simple existence de certains conflits, complots, la politique humaine qui a existé est juste différente. Donc j'ai voulu aussi mettre sur la vie en me baladant à travers les siècles, pas qu'il y ait pris sur la littérature, qui n'est pas on regarde sur la société. Effectivement, de tome en tome, on avance dans le temps, on commence aux guerres de religion, on va aller au XVIIIe siècle, la Seconde Guerre mondiale, le quatrième volume, ça sera quelle époque?
On a beaucoup plus près de nous, on est dans les années 80.
D'accord. Et alors, quand vous écrivez comme ça des époques différentes, qu'est-ce qui est finalement plus difficile pour chaque période? Quelle est la période la plus difficile, par exemple, que vous avez étudiée et à recréer dans vos romans? Ça a été quoi?
Elles sont toutes difficiles, mais chacune à leur manière. Par exemple, quand on tourne au 16e siècle, je ne connaissais rien. Donc, ça a été un calvaire, regardez. Ça a été un calvaire terrible de réunir des éléments beaucoup dans la vie quotidienne. Alors, j'ai essayé d'éviter de me disperser. Donc, je me suis centrée vraiment sur, par exemple, la caste haute bourgeoisie, l'aristocratie, pour regarder comment ils vivaient précisément, pour avoir des détails de leur organisation personnelle. Et puis, évidemment, le climat socio-politique, parce que bon, c'est quand même important, puis ça conditionne le personnage, puisqu'on l'a découvert à cette époque-ci, malgré ce caractère un petit peu beaucoup avant-gardiste, elle reste le produit de son époque. Donc, il fallait quand même que j'ai une bonne conscience de tout ce qui était approche religieuse, sociologique, etc. Donc, ça m'a pris des mois, où j'en ai lu que des livres en sciences et sciences. Mais bon, il fallait ce qu'il fallait. Et puis, ensuite, pour le 18e, plus simple, parce qu'on a quand même beaucoup de documentation, on est toujours en France, donc c'est une période que je connaissais déjà. Donc là, je suis évidemment passée par les lectures obligatoires, l'histoire, hein, normal, et j'ai ajouté pas mal de mémoires de personnalité de compte, et ça a fait énormément de choses sur le quotidien. Donc, je pense que le 18e, à tout point, c'est ce qui est plus facile. Et puis, bah, on n'a pas de deuxième guerre, on en troisième tour. Alors là, c'est une émulation complète, la descente aux enfers, vu que je me suis penchée sur le film nazisme, je suis allée assez loin, très très loin. Donc, ça va être compliqué de réunir les éléments, par contre, ça a été la mesure. Je connaissais déjà, mais non, on n'a pas été. On va faire pas trop long. Ça a été une vidéo de page. Là, j'en avais marre aussi, mais parce que j'ai pas envie de tout donner.
Éric Marchal, vous aussi, vous avez exploré des époques tout à fait différentes dans vos romans. Est-ce qu'il y a des époques qui vous intéressent déjà plus que d'autres et qui sont plus propices à la matière littéraire?
Plus propices, non, sont vraiment toutes. Et j'en prends complètement ce que vous essayez, c'est-à-dire que chaque époque, chaque siècle est très intéressant, il y a ses propres difficultés. C'est vrai qu'en matière de documentation du 16e, c'est compliqué parce que les quelques documents qu'on a trouvés sont écrits en vieux français, ils sont écrits en calligraphie, que même calligraphie qu'on arrive à lire facilement. Donc, des fois, ça prend une demi-heure pour comprendre ce que l'auteur a donné sur une page. Mais par contre, à côté de ça, c'est vrai qu'il y a. On découvre d'autres choses très intéressantes sur cette période-là. Le 17e, le 18e, pareil, on commence à avoir plus d'éléments écrits. Moi, j'adore le 18e et le 19e parce qu'on commence à avoir les journaux quotidiens. Et là, on a une information sur la vie quotidienne qui est extraordinaire parce que c'est vrai qu'on peut lire des livres d'historiens, mais ça ne remplace pas la lecture d'un journal, par exemple, de Paris de 1850 où on découvre au jour le jour des nouvelles préoccupations. Surtout, on s'aperçoit qu'elles étaient quasiment identiques à celles qu'on a aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai aussi parcouru dans mon tout premier roman Influenza la Seconde Guerre mondiale et j'ai ressenti la même chose que vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le second tome, je parle du bombardement du Hambourg, que j'étudie via des livres d'historiens et aussi via des témoignages, et je peux dire que j'ai fait des cauchemars pendant 3 semaines, parce qu'il faut essayer aussi de rendre ces moments-là, donc les émotions quand on est vraiment. Dans la tête de chacun des personnages, les émotions, on les ressent comme eux. Donc, qu'elles soient négatives ou très très positives. Donc voilà, c'est vraiment une palette. Chaque siècle, chaque moment est intéressant, avec ses propres difficultés. Mais aujourd'hui, on a vraiment, en tout cas, je trouve qu'on a, grâce à l'accès aux grandes bibliothèques, et notamment à Gallica, on a justement accès à des documents auxquels on ne pouvait pas prétendre avant. Que seuls les chercheurs pouvaient consulter. Et ça, c'est extraordinaire pour quelqu'un qui veut travailler la matière d'un roman historique.
Et ces témoignages, c'est pour, vous les lisez, pour être proche des individus et pour être proche des mentalités, en fait, quand c'est des époques reculées.
Moi, ce que j'adore, c'est complètement intégrer le réel à l'imaginaire. Toutes les intrigues sont inventées, mais il y a la plupart, les personnages principaux sont inventés, mais il y a des personnages secondaires ou parfois principaux, comme on appelle. Eux ont vraiment existé. Et la première chose que je faisais dans le dernier, donc La Rue des Étoiles, quand je me situais à une certaine date, j'allais voir les journaux d'époque, déjà tout simplement pour voir quel temps il y avait fait. Et s'il y avait fait beau, s'il y avait plus, s'il y avait vraiment plus, jour là. Et j'intégrais parfois des anecdotes que je trouvais. À un moment donné, les ingénieurs d'Eiffel doivent aller apporter une maquette pour la réalisation de la statue de la liberté, de la structure. Ils doivent aller apporter une maquette de l'atelier Liaget. Et je lis donc dans le journal de l'époque que le même jour, il y a eu un meurtre dans ces trucs, avait été livré par la police, parce que le meurtrier était encore dans un des immeubles. Qu'est-ce que je fais? Les ingénieurs, quand ils arrivent, l'avaient livré par la police, eux vont tout faire pour essayer de livrer leur maquette encore une fois. Moi, ce qui me plaît énormément, c'est de complètement intégrer le réel dans la fiction, et à un point ou à la fin, en tout cas, je me demande, c'est quelque chose qui nous a rendu que c'est sans vrai.
Isabelle Fournier, dans ces supports que vous imaginez, que vous créez à destination du jeune public, vous avez ce souci du détail?
Oui, en fait, les supports qu'on conçoit, on les prépare en amont très longtemps, grâce à la documentation et grâce aussi aux rencontres humaines, puisqu'en fait, donc nos supports pédagogiques permettent un travail en classe et aussi sur des sites de visite. Et donc, du coup, on travaille en partenariat avec notamment tous les gestionnaires de sites chez qui on va. Donc, voilà, c'est sur Verdun. Pour l'instant, on travaille sur Verdun. Donc, c'est la grande ville. Ouais.
Et donc, vous avez inventé des histoires à destination des jeunes enfants dans vos supports pédagogiques. Vous avez inventé des déroulés d'histoires pour les enfants.
Alors, le support que j'ai là, il n'y a pas d'imaginaire dedans. Ça, c'est vraiment un support de travail pour les enfants. Le travail est fait en classe et sur le terrain. Non, là, l'imaginaire, il est arrivé avec Daniel, en fait. En fait, cette année, Daniel et moi, en fait,
l'année dernière, on était sur la même table ronde, une table ronde ensemble, c'est là qu'on a fait connaissance, et maintenant on écrit ensemble. Merci les images.
Oui, donc on a mêlé l'univers de Mission Expo et la créativité de Daniel. Voilà, donc là, il y a l'imaginaire. Et c'est exactement comme ce que tu disais par rapport à tes romans. Les héros sont imaginés. la quête, la trame, elle est imaginée, mais c'est vrai que la précision, elle est dans, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, dans la météo, qui faisait, hein, à ce moment-là, ils vont aux épaves, j'ai lu le roman de Maurice Genevoix, 7-14, je vois qu'il a plu à ce moment-là, qu'il y a de la boue et que les feuilles sont, les arbres sont encore feuillus, malgré que ce soit l'automne, et donc, quand ils se promènent là, aux épaves, bah, il fait le même temps. On pourrait recroiser les romans, les journaux d'époque, en fait, on s'insère complètement dedans. Donc la trame est imaginaire, mais les décors sont réels.
Daniel, donc vous pouvez nous raconter un peu votre projet de Guédelon, qui est quand même assez particulier, de quoi il est parti, ce projet-là?
Le projet Guédelon, moi mon projet c'est le projet de la série, mais le projet Guédelon, il y a beaucoup de gens qui savent de quoi il s'agit, mais je vais quand même me présenter rapidement. Il y a une bande de fous, à peu près à 30 km d'Auxerre, en plein cœur de la Puisée, qui sont en train de construire un château fort avec les techniques du XIIIe siècle. Donc ils ont commencé il y a juste 20 ans, le chantier a commencé en 1997, et puis il n'y a que 5 choses modernes sur le chantier, obligatoires par les lois du travail. Et les ouvriers ont tous des chaussures de sécurité, ceux qui craignent éventuellement des projections dans les yeux, comme les carrelés ou les tailleurs de pierre ont des lunettes, ceux qui sont sur les courtines, sur les tours, les maçons, etc., ils ont des casques. Tous les cordages sont modernes, ils n'ont pas le droit d'utiliser des cordes, parce qu'ils fabriquent eux-mêmes des cordes sur le chantier, mais leurs cordages de levage sont modernes. La roue à cureuil, elle est bien typique du XIIIe siècle, mais les cordes qui permettent de monter avec la roue écureuil sont modernes. Et la dernière chose, c'est qu'ils fabriquent absolument tout au niveau du bois pour leurs échafaudages, mais ils sont obligés de les boulonner. Ils ne peuvent pas être chevillés comme dans le passé. Ce sont les 5 choses actuelles, si j'ose dire, quand on entre sur le chantier de Guédelon, on plonge d'un seul coup au milieu du XIIIe siècle. Et moi, c'est ce qui m'a fasciné la première fois que j'y suis allé. Il y avait juste la base des tours et la base des courtines. Alors, je précise qu'on dit courtine quand c'est un rempart entre deux tours. Donc, à Guédelon, il n'y a pas de rempart. Il n'y a que des courtines, puisque tous les murs sont reliés, en fait, entre eux par des tours. Et moi, j'avais mis rempart dans le premier manuscrit. On m'a dit, non, on ne dit pas rempart à Guédelon, on dit courtine. Alors, maintenant, je le dis. Et en fait... j'ai eu la chance tout à fait par hasard, hein, parce que mon frère et ma belle-sœur habitent à proximité, j'avais visité le chantier dès le début, et j'ai vraiment, moi qui écris de la science-fiction et qui me balade plutôt dans les histoires du futur que dans les histoires du passé, j'ai eu la sensation, pour la première fois, de faire un véritable voyage dans le temps. C'est-à-dire que physiquement, j'étais au milieu de personnes qui étaient habillées et qui travaillaient exactement comme au milieu du XIIIe siècle, et ça m'a complètement fasciné. J'ai tout de suite eu envie, enfin bon, moi je suis principalement écrivain jeunesse, hein, j'ai tout de suite eu envie de mettre des jeunes personnages au milieu d'un décor pareil. Mais bon, j'ai gardé ça pour moi pendant très longtemps, j'avais d'autres projets, j'étais encore enseignante à plein temps, etc. Et un jour, je m'en suis ouverte à ma belle-sœur qui était impliquée dans la vie touristique de Lyon, du département de Lyon, et qui m'a dit, mais c'est une super idée, il faudrait en parler avec l'équipe de Guédelon. Donc elle m'a emmené, Manu Militari, rencontrer Marine Martin, la directrice du site de Guédelon, qui m'a vu arriver un petit peu avec l'appréhension de mon étiquette d'écrivain de science-fiction, alors qu'elle est quand même historienne de l'art, et qu'elle ne me voyait pas vraiment arriver d'une façon positive. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est « pas de fantastique, je ne veux pas de fantastique », ce qui est tout à fait logique, c'est pas du tout dans l'esprit de Guédelon. Guédelon, leur devise, c'est construire pour comprendre. Ils se heurtent à chaque étape de la construction de leur château, ils se heurtent à des réalités architecturales qui sont en même temps des réalités archéologiques, qui sont en liaison avec l'université de Lyon 2. Et il y a des castellologues, des archéologues qui viennent régulièrement voir leur travail et qui, justement, découvrent aussi, par exemple, quand ils ont fini de couvrir le toit du logis seigneurial, ils se sont posé la question de savoir d'un seul coup, bah, la première grosse averse qu'il y a eu, ah bon, et toute la pluie qui tombe là, en plein milieu de la cour, comment ça se passait au Moyen-Âge. Donc ils sont allés chercher avec les archéologues dans des anciennes déchetteries du Moyen-Âge, si j'ose dire, et ils ont retrouvé des morceaux. morceaux de cône en terre cuite faits par des potiers. Et ils se sont dit, ça, c'était ni des cônes, ni des entonnoirs, ni... Et là, ils se sont rendus compte que c'était tout simplement des cônes qui étaient emmanchés les uns dans les autres, si j'ose dire, pour récupérer les eaux de pluie et descendre comme nos chaînons, elles nous descendent d'eau, en fait. Et ça, ça a été une découverte qui a été faite grâce à Guélian, en fait. Hein. C'est-à-dire que si personne n'avait jamais construit un toit comme ça, cette année, il montre la première charpente en bois meilleur au-dessus de la tour de la chapelle. C'est la première fois depuis le Moyen-Âge qu'on va construire une charpente en bois meilleur avec les techniques de l'époque. Je peux vous dire qu'ils sont tous très très intéressés et très anxieux en même temps de savoir comment ils vont arriver à faire ça. De même que quand ils ont posé la première clé de voûte avec du mortier qu'ils avaient fait eux-mêmes, etc., tout le monde tremblait. Ils en ont fait un film d'ailleurs, un film qui s'intitule La voûte. Et c'est passionnant, c'est une équipe de passionnés, ils sont absolument charmants. Donc ils ne travaillent que du mois de mars au mois d'octobre, ça se comprend. Par contre, c'est ouvert tout le temps, pendant toute cette période-là. Et ils s'arrêtent de travailler à chaque fois que quelqu'un dans le public leur pose une question. C'est peut-être pour ça aussi que ça a déjà pris 20 ans. Hein. Ils ont une vocation pédagogique qui est très très forte. Et voilà, Marilyn Martin, quand elle m'a dit pas de fantastique, je lui ai dit non, mais moi c'est une histoire sur le chantier. Et on s'est très vite, très bien entendu, et au bout d'une heure, elle me dit, oui, mais alors ce qui serait bien, c'est que les gamins du 21e siècle, ils aient des contacts avec ceux du 13e. Alors j'avais gardé l'idée pas de fantastique. Alors je lui dis, oui, et tu vois ça comment? Je lui dis, oh, je sais pas, une porte temporelle. Alors, j'ai dit, ça va, on peut y aller, on va y arriver, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, alors on n'a pas fait de porte temporelle, bien sûr, je n'allais pas coller une starguette au milieu de quelques jours, mais c'est vrai que ça a été une très très grande joie de pouvoir faire ça. Alors ça m'a demandé énormément de travail aussi, parce que j'ai plongé dans le 13e. Moi j'ai un mari qui est prof d'histoire, ça m'a aidé, ça aide, oui, ça aide pour la documentation, mais je suis... Enfin, j'ai découvert ce siècle qui est assez fascinant parce que vous parliez des choses dramatiques de l'histoire tout à l'heure. Il faut savoir que le XIIIe siècle, c'est un siècle heureux quelque part. Ça a été très, très, très mal après. Le XIVe avec la peste, etc., c'est une vraie catastrophe. Mais le XIIIe siècle, c'est le siècle de Saint-Louis. C'est, bon, même s'il y avait des croisades, même si c'était comme on parle de Bonaparte. C'est un siècle où il n'a pas fait énormément mauvais, il n'y a pas eu de grande famine, il y a eu énormément de progrès technologiques. C'est le siècle où on a inventé la brouette, par exemple. Hein? Ça paraît tellement naturel, une brouette. Mais non, moi, je suis persuadé que c'était inventé par une femme qui en avait marre de transporter le linge dans des caisses et qui, voyant la roue, et puis on s'est dit, allez hop, je vais prendre ça pour aller jusqu'à la rivière.
Donc vous avez eu l'avantage d'être quasi immergé dans l'époque que vous décrivez. Éric Marchal, par exemple, est-ce que vous avez besoin de voir les lieux dont vous parlez avant d'écrire?
Paradoxalement, non. C'est vrai qu'en plus, certains sont des lieux assez éloignés. Donc, en général, à part à Lyon, c'est un week-end, mais j'avais déjà écrit à peu près les deux tiers du roman. C'était surtout pour vérifier que je ne disais pas de grandes bêtises dans un roman de l'article local et vérifier que tous les temps que je donnais entre différents quartiers de Lyon à pied, c'était bon, j'ai marché pendant quelques heures en Lyon. Mais autrement, non, je travaille beaucoup en fait avec des photos. De toute façon, dans la plupart des cas, les bâtiments n'existent plus. Donc je travaille plus avec des photos et quand on a la joie aussi de découvrir un plan ancien, on ne lâche plus et on passe des heures sur ce plan.
Ces décors, c'est important, comme c'est des décors historiques, notamment le Paris ancien.
Oui, tiens, parce que c'est un minimum de réalisme, mais ce n'est pas un maximum de réalisme. Il faut vraiment se pencher sur tous ces détails-là. Donc, effectivement, le plan, l'évolution du plan, quand il est refait, quand on est refait, parce qu'il faut comparer les informations, il faut les recouper pour vérifier si c'est juste. Parce qu'il y a toujours le risque, enfin, en tout cas, de voir qui suit. Il y a toujours le risque de se passer quelque chose de faux. Donc j'ai tendance à vérifier énormément, évacuer au maximum la possibilité.
se déplacer avec une... femmes, les perruques, bouger la tête. Donc.
Voilà, alors souvent, il y en a une qui se fanait, et les cheveux, donc, il y a beaucoup, beaucoup de perruques, donc du coup, la chevelure en dessous pose un problème, donc elle avait sa propre, elle avait dans la tête, donc, qui rasait, ou qui coupait, pour pouvoir porter la montagne de faux cheveux sous-farmés et sur-farmés, avant. Oui, tous ces détails-là, on est obligé de passer, alors, c'est pareil, il faut se méfier de la rigueur absolue parce qu'on en petit vite énormément du temps. Or, à côté, il faut écrire aussi. Et après, ça prend du temps.
Parce que vous voyez, dans la recherche et la documentation.
C'est ça. Ils ont le mieux et nous, les biens pour savoir s'arrêter à un moment donné. Alors, le problème, c'est quand on aime beaucoup l'histoire, on a beaucoup de mal à s'arrêter. Par contre, on se dit, j'ai passé 3 mois là-dessus, pour faire genre la colle.
Olivier Gay, quand on a tout à imaginer, quand on n'est pas lié à un lieu, un endroit, finalement, est-ce que c'est plus contraignant d'avoir tout à imaginer ou pas?
Alors, d'abord, je voudrais dire merci parce que je n'ai pas du tout ce chantier et que je vais visiter cet été, c'est exceptionnel. Et vraiment, c'est un truc qui me fascine, qui m'intéresse et je suis stupéfait par avoir entendu parler, donc je le fais. Pour le reste, oui. Oui, parce que mécaniquement, si on veut écrire un roman, qu'on invente les choses, on essaye évidemment de rendre notre histoire crédible, de rendre notre univers crédible. Et c'est évidemment, il y a un tambour derrière, effectivement. Et ça fait très solennel du coup comme déclaration, c'est bien. Et du coup, on est obligé de réfléchir à tous les détails, à toutes les implications que ça peut avoir. Je prends un exemple tout bête, mais que je cite à chaque fois. C'est imaginez que demain on invente la téléportation. On met ça dans notre univers, on dit, oh là là, incroyable, la téléportation existe. Sauf que c'est pas seulement la téléportation existe, c'est-à-dire que si la téléportation demain se mettait à exister en France, il n'y aurait plus de compagnie d'aviation, plus de compagnie ferroviaire, plus de voitures, il n'y aurait plus tous les partenaires qui sont autour, il n'y aurait plus toutes les agences qui sont autour. Mais ça, c'est la première chose qu'on voit. Et si on réfléchit un peu plus, il n'y aurait plus d'immobilier non plus, parce que finalement, tout le monde peut habiter où il veut et travailler à un gros immeuble. Et en fait, il y a des implications sur chaque choix qu'on fait. Donc là, je vous parle de science-fiction. Mais dans la main de l'empereur, typiquement, bah, si je vais mettre un système de 4 niveaux dans tel ou tel endroit, bah, ça va avoir une implication, effectivement, sur la manière dont les rues vont être gérées, sur la manière dont les rues vont être traitées, et sur la manière dont, effectivement, les maladies, par exemple, peuvent se répandre. Et je terminerai là-dessus sur le fait que... Alors, voilà, maintenant, je me sens un peu ridicule à côté de tous les autres. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup moins de recherches, puisque je passe plus de temps pour inventer mon univers, mais par contre, je passe beaucoup moins de temps, évidemment, pour recherche concrète. Par contre, j'ai également une série, en fait, qui est une série de romans policiers, et on a une grande discussion avec mon éditeur, parce que c'est des romans policiers qui se passent aujourd'hui, et mes romans sont très datés. Donc, écrits en 2012, 2013, 2014, 2015, et ils sont datés avec des chansons de 2015, avec des marques, avec des endroits, ça se passe à Paris, donc il y a des rues, etc. Et mon éditrice me disait, mais tu sais, le problème, c'est que voilà, dans 10 ans, les gens ils vont lire ton livre et ils vont qui les Gaga. Quoi. Et je pense qu'en fait, c'est assez intéressant pour nous de dater les livres. Parce que moi, par exemple, quand je viens à Agatha Christie, je me retrouve dans l'ambiance des années 20, des années 30, des années 40, sur le moment où il a été écrit. Et justement, je disais à mon éditrice, mais je rêve de ça, je rêve que les livres existent encore sous forme à papier dans 100 ans et qu'un jour, quelqu'un dans une rencontre tombe sur un livre et dit c'est qui Lady Gaga. Parce que on dira ce qu'on veut, on invente ce qu'on veut, mais en 2012, on entendait partout. Et ça fait partie, c'est un marqueur aussi de notre époque, de la même manière que plein d'autres choses qui sont sorties. Donc voilà, donc ce travail d'historien, moi je le fais malheureusement pas aussi bien que les gens. C'est un fait, je passe beaucoup moins de temps que mes collègues là-dessus. Mais dans la création du livre, j'essaie par contre d'être le plus concret possible. Et j'ai des lecteurs qui m'ont dit que, par exemple, ils ont suivi des fans, en fait, peut-être pas tout ça, mais ils sont allés à Paris et en fait, ils m'ont suivi, ils disent, ah, c'est dans cette ruelle qui s'est passé ça, c'est dans ce truc qui s'est passé ça. Parce parce que là, ben, pour le coup, et c'est beaucoup plus facile que pour vous parce qu'il y en existe, donc c'est difficile de se balader. Mais du coup, tout est exact à la rue.
Et pour inventer un monde qui n'existe pas, pour que le lecteur le voit dans son esprit, parce que le Moyen-Âge, bon an, mal an, on en a une image du 18e, on a des images, mais vous, va falloir que vous donniez des détails sur le monde que vous créez, mais pas trop de détails, parce qu'au bout d'un moment, le lecteur, il n'en veut plus des détails. Alors, il faut être aussi assez rigoureux, et c'est une certaine technique d'écriture, ça, de donner à voir au lecteur un monde qui n'existe pas.
Alors, en fait, vous avez certainement tous entendu parler de ça, c'est une technique d'écriture qui a été rabâchée, mais elle est rabâchée pour une bonne raison, c'est que marche, c'est le fameux show dont elle, c'est-à-dire qu'il faut montrer et pas bien. Et à la base, c'était adapté sur les émotions. C'est-à-dire que le principe, c'est de dire alors, il n'y a pas de bon et de mauvais écrivain, comme dans les séries inconnues, mais, oui, j'ai des références en lien, mais c'est vrai que le principe du show dont elle, c'est que si vous écrivez... La fille était triste, c'est du tel. Si vous mettez une larme collée sur son visage, c'est cliché, mais on comprend que la fille est triste, ou émue en tout cas, sans avoir à le dire. Et bien c'est pareil pour les informations interpassées. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre effectivement cette bâtisse a été créée selon telle ou telle technique qui permet au mortier d'adhérer plus facilement au truc ou tout. Et quelquefois, c'est bien de mettre, c'est ce qu'on appelle un infodump, c'est-à-dire on balance toutes les informations et on laisse le lecteur gérer la situation, et quelquefois, il faut le faire. Mais moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant de le mettre soit dans les actions, soit dans les discours des personnages, soit dans la manière dont ça va interagir. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple du mortier qui ne tient pas, à un moment, s'il y a un mur qui s'effondre et que la personne n'est pas malade, et c'est parce que le mortier ne tenait pas, vous avez exactement la même information, mais ça fait beaucoup plus réaliste.
Éric Marchal, vous voulez gérer comment, vous, tous ces détails incontournables et qu'il faut manier avec doigté?
Ah, je crois finalement que c'est exactement la même façon. C'est vrai que, déjà, en tant que lecteur, qu'on me donne tout. Donc, je préfère que je déduise de ce que je comprends ou de ce que je vois des personnages, que je déduise leur réalité, que je déduise leur dimension, etc. Effectivement, je préfère voir plutôt qu'on me... prémâche le travail et qu'on me dise il a ça, il est comme ci, il est comme ça. Et puis les informations, alors c'est vrai que parfois, comme en plus les miens sont assez gros, au bout d'un moment j'ai peur de me perdre. Donc au début du manuscrit, je fais toujours j'achète des grands cartons, je mets plein de post-it pour ne pas oublier les détails, que les yeux ne deviennent pas bruns ou les cheveux ne changent pas de couleur du temps. Et en fait, au bout d'un moment, j'oublie aussi de remplir les post-it et donc j'y vais quand même un petit peu au feeling et finalement bon, les choses se remettent en place globalement pas trop mal. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits détails à gérer et notamment aussi des actions que certains personnages doivent faire mais bien après, donc j'essaye quand même d'avoir une petite organisation là-dessus, mais je reconnais que c'est pas tout à fait très rigoureux mais mon organisation, mais à l'arrivée j'ai pas encore vu de grosses erreurs au niveau de la réalisation de tout ça.
Daniel ou Isabelle, les enfants qui lisent vos histoires ou les enfants qui se rendent sur les lieux, est-ce que vous avez justement leur réaction, est-ce que vous pensez qu'il y a une immersion de ces enfants, comment réagissent-ils en fait à ce qui leur est proposé, et ensuite sur les lieux quand ils se rendent sur les champs de bataille, comment est-ce qu'ils réagissent à ça, à leur expérience et de lecture et d'immersion totale?
Moi du coup par rapport au travail de classe, c'est vrai que comme ils ont le livre entre les mains et qu'on leur a illustré les lieux dans lesquels ils allaient, ils ont une attente par rapport à ce qu'ils vont découvrir. Donc c'est vrai qu'on a des enfants qui sont très enfants, ça suscite un intérêt particulier, et on a la chance aussi de faire visiter des endroits qui sont restés très vivants, comme ce que tu parlais avec Guédelon. Nous tout autour de Verdun, bon, on a beaucoup d'endroits abstraits, mais on a aussi beaucoup d'associations qui ont investi beaucoup de temps et beaucoup de passion à restaurer certains lieux. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'être immergé aussi complètement dans l'histoire. Hein. C'est, quand on y va, c'est aussi un vrai voyage dans le temps. Hein. Et moi, en fait, pour l'instant, je ne peux pas encore dire comment vont réagir les enfants à la fiction. parce que le livre n'est pas encore sorti, mais toi tu peux témoigner, Daniel, tu nous racontais hier par rapport au geste là. Hein,
le problème d'intégrer l'histoire dans quelque chose pour les jeunes, c'est qu'il faut rester simple, que ce soit abordable et qu'ils s'approprient certaines choses. Dans le projet que nous avons, qui pour l'instant porte le titre provisoire de projet Kairos, donc on a forte chance d'être encore là l'année prochaine, mais cette fois avec le livre, le principe, est, enfin pour nous c'était un gros problème, c'est qu'on ne pouvait pas plonger des enfants dans la guerre de la Première Guerre mondiale sur les champs de bataille. C'était impossible. Il n'y a jamais eu d'enfants dans l'histoire sur les champs de bataille. Donc on a trouvé le biais de la science-fiction, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des enfants, on a pris le même principe que pour Guénelon, il y a des enfants de notre époque qui se retrouvent plongés dans le passé, à l'époque de la Première Guerre mondiale, par l'intermédiaire d'un petit robot qui est un peu déréglé, hein, c'est un petit robot qui n'est pas fini vraiment de fabriquer, etc., qui les fait voyager dans le temps d'une façon un peu erratique. Et donc, nos petits personnages, ils arrivent où avant ou après, hein, c'était pas possible de faire autrement. Et cette quête qu'ils ont, lorsqu'ils cherchent quelqu'un, en fait, cette quête qu'ils ont les emmène sur tous les lieux importants des sites de la mémoire de la région bavaroise, en fait. Et puis, nous, ce qu'on espère, c'est que, comme pour Guédelon, les enfants qui auront lu le roman, enfin, ce que nous aimerions, ça serait exactement d'obtenir le même effet que la série des aventures à Guédelon, c'est-à-dire que pour les aventures à Guédelon, les enfants qui ont lu les livres avant reconnaissent les lieux en allant sur le chantier, et inversement, ceux qui lisent les livres avant viennent sur le chantier en ayant déjà une idée de ce qui s'y passe et des différentes loges des ouvriers, etc. Alors, il y a un petit chat magique dans les aventures à Guédelon qui fait voyager les enfants. Parce qu'il faut dire que, comme pour le projet Kairos, on s'adresse à des enfants à partir de 8 ans jusqu'à peu près 12 ans. Quoi. Ça peut être lu au-delà, mais nous ciblons fin de primaire, début de collège, en fait. Hein. Et donc, le petit chat magique dans les aventures à Guédelon, il porte un casque de chevalier pour cacher sa tête noire parce qu'il a le corps blanc et la tête noire, mais il a un petit casque. Donc les enfants, quand ils ont besoin dans le roman de se faire le signe de ralliement comme quoi le chat casqué est présent sur le chantier et que donc ils vont pouvoir faire un petit saut dans le passé, il y a un petit geste de ralliement, ils miment avec leurs mains un home se relève sur le front et il y a des ouvriers de Guédelon qui m'ont dit qu'ils voyaient des gamins arriver près de la poterne et qui font le geste entre eux. Et ça, il n'y a rien de plus merveilleux pour un auteur de jeunesse que de savoir que ces petits lecteurs se sont emparés de quelque chose de concret comme ça. Et qu'en plus, les ouvriers de Guédelon m'ont dit c'est super sympa parce qu'il y a interaction. Quoi. C'est-à-dire que les livres amènent les enfants à se plonger aussi dans l'histoire. C'est vrai que c'est un lieu magique. Hein. Tu parlais tout à l'heure de science-fiction avec la téléportation. Imaginez les lieux d'histoire qui, quand on ne les connaît pas, c'est pareil que d'écrire un roman de science-fiction qui se passe, moi j'en ai écrit, qui se passe simplement à l'horizon d'un siècle ou un siècle et demi. Il faut bien aussi imaginer le décor. On part, c'est ce que j'ai toujours dit, on écrit de la science-fiction quand on est aussi intéressé par le passé. Et on ne peut pas construire un futur sans se préparer au passé et au présent. Et la science-fiction qui serait complètement déconnectée de notre présent n'aurait aucun sens. Et de la même façon, le travail historique que nous faisons tous dans nos romans, je pense que si c'était totalement déconnecté aussi de notre époque, ça n'aurait pas de sens.
Et est-ce que dans ce rapprochement entre les enfants d'hier et les enfants d'aujourd'hui, il y a l'idée en fait qu'ils ont des points communs, ces enfants-là, malgré le temps?
Oui, alors mon gros problème, ça a été le langage, moi. C'est-à-dire, je ne voulais absolument pas que les enfants du XXIe siècle débarquent au XIIIe siècle et communiquent comme ça, avec une facilité déconcertante, avec des enfants du Moyen-Âge. Donc, j'étais prof de lettres, alors je ne voulais pas que les enfants je ne voulais pas passer par-dessus l'ancien français à pieds joints. Donc mes petits personnages du XIIIe siècle ont des expressions, alors c'est pas vraiment l'ancien français, j'aurais pas pu, il n'aurait rien compris. Donc, mais il y a tous les mots, même légèrement modernisés, si j'ose dire, que j'ai mis dans la bouche des personnages ou adultes ou enfants du XIIIe siècle, sont tous des mots qui ont une racine qui date de l'époque, enfin, qui aurait pu être employé à l'époque. Je n'ai pas mis de mots modernes, mais oui, c'est assez interpellant. On joue avec quelque chose qui est un terrain extrêmement glissant. Hein. On peut entraîner le lecteur vers l'adhésion ou au contraire vers quelque chose qui va faire que ben non, il n'y croit pas. Hein. C'est un petit peu comme tout texte de fiction. Il faut que le lecteur accepte de jouer le jeu. Hein. Et c'est pareil pour le roman historique aussi, ou quel qu'il soit. On y met des vampires, on y met ce qu'on peut. Mais il faut que le lecteur nous fasse confiance, d'une certaine façon. Nous fasse confiance en se disant je sais que je lis quelque chose qui est fictionnel, que c'est pas vraiment vrai, mais je sais aussi que je me lis à compte des choses. Et voilà, et c'est là qu'on en peut. Mais nous avons exactement la même réaction en tant que lecteur. Hein.
Céline, votre héroïne, donc, qui s'appelle Rose, évolue dans des périodes différentes. Est-ce que, pour ce qui est de la femme, du personnage féminin, c'est important qu'elle évolue aussi selon la mentalité de l'époque? Une femme du 18e, c'est pas une femme du 20e siècle. Est-ce que vous les avez fait évoluer ou...
Non. Puisque le principe de cette vengeance, enfin, dans ma façon de voir, c'est... Ils sont conservés, ils sont dans la conservation permanente. Donc, comme tu as un chacun, on évolue, bien sûr, mais ils ne vont pas non plus se métamorphoser, mais restent compte de ce qu'ils sont. Ils sont figés physiquement, et ils sont en grande partie figés émotionnellement, mentalement. Ce qui explique pourquoi il n'y a pas de grands revirements ou de grandes adaptations. Après, concrètement, quand on traverse les siècles, on n'a pas nécessairement envie que l'humanité s'aperçoive qu'il y a une vengeance étrange qui nous consomme en l'air de rien. On est obligé de s'adapter. C'est une obligation. Mais leur mentalité, elle évolue pour peu, finalement, parce qu'ils restent le produit de ce qu'ils ont été. Ils absorbent, ils évoluent, ils prennent tout un chacun. Et leur caractère reste le même, on n'en est pas, à part pour le décorum, pour se fondre dans le décor, ils restent le même. Et c'est leurs expériences personnelles, celles qui les touchent, qui vont les faire évoluer. Et c'est comme ça pour tout le monde. Sur notre copie, c'est comme ça que ça fonctionne.
Éric Marchal, vous avez dans un de vos romans qui s'appelle La part de l'aube, on découvre donc à Lyon un texte gaulois écrit par un druide. Déjà, c'est un peu bizarre parce qu'on pensait un peu que les druides n'écrivaient pas. Et justement, cette découverte pourrait bien bouleverser en fait l'histoire de France jusque la monarchie. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de savoir si l'histoire justement. L'histoire qu'on nous enseigne et l'histoire qu'on connaît, finalement, est-ce qu'elle est susceptible d'évoluer, cette histoire?
Tout à fait, notamment les années gaulois. Des siècles, elle a complètement évolué. Et pour repartir sur cette vie gaulois, c'est vrai que la tradition druidique est une tradition orale. Je connais une fois de ça 20 ans. Et qu'en fait, j'ai imaginé qu'un de ces druides avait décidé de mettre la connaissance gauloise sur sa tablette, dans un coffre, pour justement éviter qu'elle ne se perde à un moment donné où l'empereur Claude, dans son temps de culte avant Jésus-Christ, a décidé de l'interdiction de la religion et du culte. Et donc, si lui, dans cette histoire, ne l'avait pas fait, effectivement, toute cette connaissance se serait perdue. Ce qu'on a quasiment, d'ailleurs, jusqu'au milieu du XXe siècle, on ne connaissait pas. On redécouvre aujourd'hui les Gaulois parce que, grâce à des méthodes plus modernes d'investigation, on arrive à retrouver les lieux et on arrive à comprendre qu'en fait, contrairement à ce qui était écrit dans l'encyclopédie, là, c'est une période jusqu'à la fin de la royauté, il ne fallait surtout pas dire bien les Gaulois, c'était très mal vu, ici en Bastille. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, à quel point on parlait positivement des Gaulois à cette époque, c'était quelque chose d'explosif. Et donc, c'est pour ça que j'ai imaginé cette histoire, que j'ai imaginé qu'un avocat de Lyon découvrait ces textes qui montraient, qui démontraient qu'en fait les Gaulois n'étaient pas des barbares qui vivaient au fond des forêts en pratiquant le sacrifice humain, comme ce qui est écrit dans l'encyclopédie de Voltaire, mais qu'en fait, c'était une nouvelle civilisation qui posait de l'astronomie, qui faisait de l'agriculture et qui vivait dans des villes. Il y avait des recensements aussi. Et ces villes, bon, on commence à les redécouvrir, comme du Brac aujourd'hui. On a retrouvé aussi un Anglais, mais tout ça c'est récent, et donc ça c'est la connaissance qu'on a nous aujourd'hui des Gaulois. Ils étaient vraiment odieux jusqu'à la fin de la Révolution. Après, on en a fait des héros, mais parce que ça arrangeait bien le pouvoir après la Révolution, jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Hein, il y a encore des monuments aux morts en France, ou des monuments de la Première Guerre mondiale, où à côté du Colu, vous avez un Gaulois, avec tous les attributs qu'on leur donnait à l'époque. Et donc la réalité, elle était fluctuante au niveau de l'histoire. Ça, c'est une évidence.
Une sorte de fantasme national qui va avec l'histoire nationale officielle.
Et avec des revirements. Et aujourd'hui, on est plus dans une période balancée parce qu'on commence à découvrir un peu ce qu'étaient vraiment les Gaulois et qui n'ont pas été uniquement absorbés, on va dire, par les Romains. Ils ont énormément aussi apporté aux Romains.
Et alors, le grand public que nous sommes, on n'est pas forcément au fait de toutes ces recherches. Vous, en tant qu'historien, vous êtes un peu impatient de ça, de ce travail des historiens.
Je suis un historien amateur. Comme mes collègues, je passe beaucoup de temps, peut-être pas éventuellement, mais je passe énormément de temps et au bout de quelques mois, je ne fais que des recherches. J'en ai marre, je commence à écrire et je continue après à faire mes recherches en parallèle parce que, en fait, au bout d'un moment, on se dit, on est des historiens amateurs, mais on n'est pas non plus. Notre but, ce n'est pas juste de, entre guillemets, de jouer à l'historien. Notre but, c'est d'écrire et d'être le premier à s'évaluer dans une histoire. Et donc, on pose le socle de ce que devra être la chaîne de l'histoire et après, on commence à
Il y a cette volonté quand même d'enseigner, enfin d'apprendre des choses aux gens ou pas du tout?
De partager parce que quand on lit, dans ses lectures, on découvre des choses qu'on trouve absolument incroyables, qu'on n'imaginait même pas après, on se dit, mais ça, il faut absolument que je le mette dans mon roman. Et ce que j'adore en fait, c'est quand quelqu'un me dit, oui, mais là vous avez dit ça, vous exagérez, c'est des choses de vrai. Ça, c'est vrai que c'est un petit plaisir qu'on n'a pas ou pas. Quand le plus étonnant n'est pas ce qu'on a inventé, mais le plus étonnant est ce que la réalité de l'histoire nous
dit. C'est ce que vous disiez, c'est bon.
La réalité n'est pas sa fiction, effectivement. Et c'est souvent dans le détail, voilà. Et c'est souvent dans ce détail-là qu'en fait on va très très loin. Et j'ai l'impression qu'on invente et bon. Et bon. Là, il y a malheureusement, parce que j'ai eu beaucoup de ce cas avant dans la seconde guerre. Donc, malheureusement, non.
Alors, je fais le parallèle un peu en lisant les aventures de Guendo, de ces ouvriers. Ils ont fait des recherches avant de se mettre à travailler. Évidemment, ils ne sont pas tout de suite partis à bâtir leur château, donc qu'on cherchait, et qui ensuite travaillent et puis font sortir de terre ce château. Vous, romancier historique, ça m'a donné un peu la même chose. Finalement, vous cherchez, vous allez leur faire des recherches, vous essayez de comprendre et de lier tout ça ensemble, et qu'ensuite vous allez restituer sous une forme ou sous une autre ce que vous avez comme ça absorbé, faire une œuvre. Ça vous paraît quelque chose, cette démarche-là, ça vous paraît être effectivement votre démarche de travail, d'absorber, de comprendre et puis de restituer les choses?
C'est la démarche de travail pour tout romancier, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire qu'on est... On n'a rien, enfin, on a des idées, on a des décors, on a des choses comme ça, et puis à partir de là, il faut faire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire il faut faire vivre un personnage, découvrir des choses. J'avais écrit, moi, un roman jadis où il était question d'un voyage, enfin, j'utilisais un voyage que j'avais fait en Indonésie, et quand j'ai proposé le manuscrit à mon éditeur, il m'a dit, il va falloir le réécrire, parce que là, on a le guide touristique d'un côté et l'aventure du personnage de l'autre. Voilà, tout mélangé, hein, qu'on découvre le pays par l'intermédiaire de personnages. Et là, c'est pareil, je pense qu'on fait découvrir l'histoire par l'intermédiaire de nos personnages, de nos histoires. C'est bien. C'est agréable.
Alors, je vous dis à l'année prochaine pour toutes les deux, avec l'œuvre en question, chez la QSF, c'est ça?
Oui.
Et je vous remercie à tous, messieurs, mesdames, pour cette rencontre. Bonne continuation à vous. Merci de votre attention. À bientôt.